France Culture, bienvenue dans Soft Power en direct jusqu'à 20h30. Et comme chaque dimanche, Soft Power, magazine des industries créatives et culturelles de France Culture, s'intéresse à la culture, au numérique et tout ça dans une perspective internationale et également aux relations internationales dans une perspective culturelle. Voilà, dans les deux sens ça marche, c'est ça le Soft Power. Et au cœur de cette influence française, il y a l'Institut français, l'agence officielle du ministère des Affaires étrangères qui s'occupe de la diffusion de la culture française à l'étranger, notamment dans nos instituts culturels et nos centres culturels, ce qu'on appelle en partie le réseau, rebaptisé depuis quelques années justement Institut français. Sur cette question essentielle de la diplomatie française et de notre influence culturelle à travers le monde, je reçois ce soir les deux diplomates français qui sont en charge notamment de notre soft power. Pierre Buller, président de l'Institut français, vous êtes aussi ambassadeur chargé de l'action culturelle extérieure de la France. Bonsoir monsieur.
Bonsoir, merci de me recevoir.
Vous avez été aussi ambassadeur dans plusieurs pays, dont Singapour.
Et la Pologne.
Et la Pologne. Vous avez été aussi conseiller culturel à New York. Et Laurence Hauer, vous êtes madame au ministère des Affaires étrangères. Là, c'est la direction, puisque vous êtes directrice de la culture, de l'enseignement, de la recherche et du réseau. Bonsoir, madame.
Bonsoir. J'ai été également ambassadeur et également conseiller culturel.
C'était quel pays ?
J'étais au Royaume-Uni, directrice de l'Institut français de Londres.
Et ambassadeur ?
Ah, j'étais ambassadeur dans les Balkans, dans un pays qui a changé de nom il y a deux jours et qui s'appelle...
La Macédoine du Nord maintenant, c'est ça ?
Voilà.
Avec vous deux, nous parlerons ce soir de notre stratégie d'influence, de nos outils, notamment numériques, du réseau culturel, de l'articulation parfois délicate, il faut bien le dire, avec nos ambassadeurs d'une part ou avec les alliances françaises d'autre part. Et puis nous évoquerons des artistes, des écrivains, des auteurs que vous soutenez, des tournées que vous suscitez ou encore des auteurs, je l'ai dit, que vous défendez. L'action culturelle extérieure de la France, tel est le sujet ce soir de cette émission. Toujours au sommaire de Soft Power, dans un instant actualité, actualité des industries créatives et culturelles, nous parlons du label Atlantique et de Bruno Mars. Nous parlerons des rachats importants qui ont lieu en ce moment aux États-Unis, notamment entre Comcast, AT&T ainsi que la 20th Century Fox, ainsi que des tensions en France dans les médias entre BuzzFeed qui cesse sa publication à Paris et la revue 21 qui est rachetée après l'échec de Hebdo. En seconde partie d'émission, votre invité innovation OSF. Ce soir est Olivier Benoît.
Olivier Benoît, il est le patron, disons, en Europe d'une association qui s'appelle The App Association et qui représente aux États-Unis et donc désormais aussi en Europe les développeurs d'applications. Et il est l'auteur d'un livre blanc sur les rapports entre les développeurs d'applications et les fameuses plateformes, ces plateformes sur lesquelles on les trouve. Une relation vertueuse ou difficile et notamment qu'est-ce que l'Europe entend faire face aux plateformes. On verra ça avec lui.
20h10, le numérique est politique. Le débat de ce soir sera consacré aux nouvelles formes de fracture et d'exclusion numérique et aux solutions pour y remédier. Et on en débattra avec Gaël Duval, entrepreneur fondateur de jechange.fr, qui est proche de La République En Marche, et Romain Pigenel, cofondateur de Futur.io et ancien conseiller communication numérique de François Hollande à l'Élysée. Voilà pour le sommaire de ce magazine Soft Power ce soir. Cette émission réalisée par Sonia Leglen, avec en régie Jean-Guy Lemège et Hippie. Hein, ils sont deux ce soir, enfin, n'oublions pas Hippie. Entre nous, c'est une joke, mais Hippie, c'est le chien. Hein, voilà, mais c'est juste. On a le droit de s'amuser peu avant les vacances d'été qui arrivent à grands pas. Cette émission a été préparée par David Lavaux avec pour les réseaux sociaux Pierre Le Damani. Car vous pouvez également suivre cette émission sur Twitter, mot-clé Soft Power, sur notre playlist Soft Power de Spotify, ainsi que sur les réseaux sociaux Instagram, Medium, Facebook, LinkedIn, en podcast et sur France Culture en direct jusqu'à 20h30.
Better.
On commence cette émission par un extrait d'un morceau très typique du R&B du chanteur hawaïen Bruno Mars, lequel arrive en tournée en France avec un concert attendu au Stade de France le samedi 30 juin. Son 24 carats Magic Tour, c'est le nom de l'album et de la tournée, étant un succès planétaire en ce moment en Amérique latine, bientôt dans la plupart des grandes villes européennes, avant une tournée aux États-Unis en septembre. Tout récemment, Bruno Mars vient d'être primé 4 fois au Billboard Awards de Las Vegas, meilleur artiste R&B, meilleur album R&B, meilleur tour R&B et meilleure chanson R&B. Ce qui est intéressant dans ce phénomène, et on l'entend bien dans le titre que l'on est en train d'écouter, c'est comment Bruno Mars a réussi à incarner une musique R&B et soul moderne qui cite évidemment Aretha Franklin, Ray Charles ou Michael Jackson, mais tout en adaptant ce son, cette soul à notre époque. Il semblerait d'ailleurs que Bruno Mars soit en discussion pour sortir un album avec Janet Jackson, ce qui montrerait au grand jour un lien déjà très perceptible sur ses albums. Au-delà de ses références sonores R&B, il en est une autre moins visible, mais non pas moins significative. Bruno Mars est en effet un artiste du label Atlantic Records, et ainsi, d'une certaine manière, la boucle est bouclée, car Atlantic avec Stax et la Motown, c'est l'une des maisons de disques emblématiques de la soul et du R&B, le label de Ray Charles et Aretha Franklin, mais aussi, avant cela, de grands artistes de jazz, de John Coltrane à Charles Mingus, en passant par Ornette Coleman. The Giant Steps de Coltrane à Too Good To Say Goodbye de Bruno Mars, que l'on écoute à l'instant, on a donc tout un pan de la musique noire américaine que résume bien Atlantic Records. Et je renvoie notamment sur ce sujet la très bonne enquête publiée récemment par Les Échos. Un dernier mot enfin. Le succès de Bruno Mars confirme aussi combien indispensables sont ces labels autonomes, sinon indépendants, dans l'industrie de la musique. Atlantic Records appartient depuis 1967 à la Warner, la plus petite des trois majors mondiales de la musique, la seule américaine d'ailleurs aujourd'hui. Mais ce label conserve une grande liberté artistique, ce qui lui permet de signer des artistes indépendants et de les développer sur la durée. Et contrairement à ce que l'on croit souvent, un label indépendant ne perd pas forcément son indépendance quand il est racheté. Du moins, si son département A&R, comme on dit en anglais, pour artistes et répertoires, conserve suffisamment d'autonomie artistique. Tel est bien le secret des industries culturelles et créatives aujourd'hui, où tous les studios de cinéma et les majors de la musique, mais aussi les studios de jeux vidéo ou les grands groupes d'édition de livres sont organisés en petites structures, en labels, en unités spécialisées, en imprint, qui leur permettent de conserver un haut degré de liberté et de créativité. Le rachat actuel de la 20th Century Fox, qui fait l'objet depuis quelques jours d'une guerre sans merci entre Comcast et Disney, ou encore le rachat confirmé cette semaine de Time Warner par AT&T, le géant des télécoms américains, n'y changeront sans doute rien. On peut avoir des multinationales du divertissement globalisées et mainstreamisées, mais en leur sein demeureront toujours des espaces de liberté artistique, des unités quasi autonomes et des labels quasi indépendants qui peuvent découvrir puis développer de nouveau Bruno Mars. France Culture, 19h passé de 11 secondes. On parle maintenant avec vous, Zoé Sfez, de l'état de la presse française, après avoir parlé un peu des États-Unis et notamment des hauts et des bas qu'on peut suivre en ce moment.
Plutôt des bas. Rappelez-vous, en janvier, on s'était fait écho ici à Softpower et dans la quasi-innovation du grand nombre de la floraison de titres de presse, aussi bien en papier qu'en pure player sur Internet. Et on savait bien, on en parlait d'ailleurs avec ses acteurs, qu'une forme de darwinisme serait à l'œuvre et assez vite. Et là, on a trois histoires, trois destins qui sont offerts à nous depuis une dizaine de jours en France. D'abord, on a l'exemple d'un groupe assez solide, Rolin Publications, qui avait lancé en fanfare Hebdo en janvier dernier, fort du succès déjà de deux titres trimestriels qui, eux, avaient très bien su s'imposer et avaient d'ailleurs marqué le grand succès des MOOCs en France, à savoir la revue 21 et la revue 6 mois. L'échec du lancement d'Hebdo, tout d'ailleurs comme celui d'un autre hebdomadaire papier qui s'appelait Vraiment, reste encore aujourd'hui assez difficile à analyser, d'autant plus pour Hebdo qu'il s'inscrivait dans la même logique de ce qui avait fait le succès de 21 et 6 mois, à savoir un pas de côté éditorial, une ambition d'aller au fond des sujets qui font ou pas l'actualité.
Des vraies enquêtes, parfois,
ouais. Même si justement on sait que les révélations pour le moins hâtives sur Nicolas Hulot ont sans doute précipité la chute de cet hebdomadaire. Le fait est que Rolin Publications qui comptait donc 63 salariés, dont une quarantaine spécialement embauchés pour le lancement d'Hebdo, eh bien, c'était déclaré il y a 3 mois en cessation de paiement. On avait 5 candidats à la reprise de cette publication, le groupe Le Monde, la société d'édition Editis, le groupe Île-de-Garde qui détient notamment les magazines Le Film Français, etc. Et puis Thierry Mandon qui était le directeur de la rédaction d'Hebdo, un cinquième acteur qui était Le Seuil, la maison d'édition Le Seuil, associé à la revue Dessinée et Topo. Eh bien, c'est ce groupe-là qui remporte ce groupe, ce qui prend la direction de Rollin Option, et c'est l'option jugée par les salariés comme la moins douloureuse de toutes. Pourquoi ? Parce que les identités de chacune de ces 4 revues est cohérente. Décision qui signifie également le licenciement de 48 personnes. On a un texte des salariés de l'Hebdo, des salariés du groupe qui est assez dur ce week-end. Certains travaillaient pour 21 ou 6 mois et subissent les conséquences d'un projet qui ne les concernait pas. D'autres ont cru dans ce projet jusqu'au bout et ils ont été jusqu'à quitter des postes stables pour le rejoindre et se retrouver sans emploi. Donc on voit un groupe qui était fort, qui finalement s'est affaibli en ratant un lancement. Autre cas de figure, c'est celui de l'imprévu, ce site de slow journalisme qu'on avait reçu dans la quasi-innovation de Software.
Le journalisme lent.
Le journalisme lent, et je sais que vous vous y connaissez Frédéric, on en parlera. Site de l'actu oublié.
Je m'y connais en lenteur.
En lenteur, non pas du tout, en célérité. Eh bien ce site, il existait depuis 2 ans, mais il comptait proposer en mars dernier un nouveau modèle de financement avec une offre développée, alternative à l'abonnement traditionnel et qui était basée sur le membership. Rappelez-vous, c'est ce qu'avaient fait des sites américains par exemple comme The Intercept. Avec des lecteurs-acteurs qui, par exemple, choisiraient les sujets, auraient un droit de regard sur l'éditorial. Et malgré un groupe de lecteurs restreint, fidèle, mais quand même assez engagé dans le processus, eh bien, il y a eu une levée de fonds ratée. On a un des investisseurs majeurs de ce projet qui s'est retiré au tout dernier moment. Résultat des courses, fin de l'opération.
C'était imprévu.
Et alors, autre cas emblématique, en pleine évolution d'ailleurs, on va le suivre, c'est celui de BuzzFeed. BuzzFeed, c'était l'un des premiers de cette nouvelle génération de pure payeurs américains qui s'était lancé en France. C'était en 2013. Alors, au début, le site avait débuté simplement par la traduction de contenu américain, puis il avait finalement investi dans une vraie rédaction avec 14 journalistes, plusieurs qui étaient plutôt sur le divertissement, on connaît les quiz de BuzzFeed, et d'autres vraiment avec une rédaction actuelle, la sortie de quelques scoops.
De grandes enquêtes, vraiment,
et puis des journalistes comme par exemple Marie Kirchen, engagés sur certaines problématiques comme le féminisme ou les problématiques LGBTI. Et le 4 juin dernier, donc là en début de mois, le directeur des opérations internationales de la maison mère débarque à Paris dans les locaux et annonce que le groupe ferme tout simplement, sans autre forme de procès, sa déclinaison française. Alors, les arguments invoqués quand on interroge BuzzFeed, c'est des revenus trop faibles et des perspectives floues pour l'avenir face à la concurrence d'acteurs locaux digitaux comme Combini ou comme Brut. La décision ne concerne que la France, pas les autres éditions internationales, alors qu'on sait, on pense savoir que l'audience et l'activité de l'édition française sont pas moins bonnes que celles d'éditions comme par exemple l'Allemagne, même si évidemment on dispose pas de chiffres, même en interne. 14 salariés donc qui se retrouvent sur les carreaux, mais qui ont décidé de lutter et qui ont engagé l'avocat spécialisé en droit social Thomas Hollande, fils de notre ancien président, pour se retourner vers la maison mère et tenter d'annuler ces licenciements qu'ils considèrent comme fautifs. Donc on voit bien qu'il y a vraiment des problématiques qui conduisent finalement à ces échecs qui sont tout à fait différents dans un contexte qui est concurrentiel de plus en plus fort, aussi bien au niveau local qu'au niveau international. Puis l'autre grosse actu de la semaine, pour le coup je pense qu'elle n'a échappé à personne, eh bien c'est cette annonce de France Télévisions, TF1 et M6 qui annonce la création de ce qui doit être enfin le Netflix à la française. On savait que c'était le cheval de bataille de Delphine Ernotte, en proposant une plateforme dite OTT. Donc OTT, c'est Over the Top Service. Donc c'est vraiment une plateforme qui serait comme Netflix ou Amazon, qui serait disponible via un site sur ordinateur. Alors le but, je cite du communiqué, on n'a qu'un communiqué pour le moment, proposer une réponse ambitieuse aux nouvelles attentes du public. Alors on n'a pas de date de lancement prévue. Pourquoi ? Parce que l'accord, il est tout frais et parce qu'il faut notifier auprès des autorités de la concurrence qu'on a ce projet, parce qu'il s'agit d'un vrai projet de concentration. On a plusieurs hiatus. Alors est-ce qu'elle sera disponible sur toutes les boxes ? On sait que par exemple, c'est pas le cas pour Netflix qui n'est pas disponible sur la Prix Box. Et puis surtout, il semblerait, c'est un hiatus majeur quand même, que la plateforme sera hébergée par Amazon Web Service et par le français OVH, ce qui est quand même un petit peu problématique. Parce que
Netflix, qui était aussi hébergé par Amazon.
Tout à fait, donc ça fait pas mal de concurrents
qui passent
par Amazon.
Comme d'ailleurs la NSA aussi aux États-Unis, ça les rend indispensables. Ça montre à quel point ils sont indispensables.
Et à quel point on est dépendant d'eux, même sur ce type de projet. Alors évidemment, l'autre question, c'est celle du budget, en termes de création de contenu. Le Monde croit savoir que chacun des associés se sont engagés à investir minimum 50 millions d'euros. Alors c'est beaucoup, mais à titre de comparaison, on sait que Netflix va investir 7 à 8 milliards de dollars par an uniquement pour la création de contenu. La question majeure, évidemment, c'est celle du catalogue. Qu'est-ce qu'on aura sur cette plateforme? Alors, toute la télé de rattrapage, le replay, mais aussi des programmes inédits, nous dit-on. Combien ça coûtera? Alors là, on semble visiblement, c'est ce qu'il nous dit, se diriger vers un abonnement à deux vitesses. Un abonnement assez pas cher, entre 2 et 5 euros pour le simple replay. Mais alors là, il y a une autre problème, c'est que la plupart des clients de Box, eh bien, ils ont déjà ce replay, et ce replay, il est gratuit. Et 7 à 8 euros pour une offre inédite, de contenu inédit. La question, toute la question, c'est qu'est-ce que ce sera que cette offre inédite? Évidemment, on suivra tout ça.
Dans Soft Power, on reviendra, j'imagine, à plusieurs occasions sur ce projet qui devrait devenir réalité. Dans un instant, on parle de l'Institut français ainsi que du réseau culturel français avec deux ambassadeurs, Pierre Buller, président de l'Institut français, et Laurence Auer, ambassadrice et directrice de la culture, enseignement, recherche et du réseau du ministère des Affaires étrangères. We all make a cray won't lie. We look a cray jump in rather. Culture, 19h passé 18 minutes. Je commence avec vous, Pierre Buller, puisque c'est un morceau que vous avez choisi. Elle est togolaise et c'est un morceau que l'Institut français soutient notamment à travers ce qu'on appelle les talents émergents dans les musiques actuelles et aussi en préparation d'une certaine manière à la saison culture africaine en 2020.
Oui, absolument. Alors, elle s'appelle Adjoa Sika, togolaise, et c'est une lauréate d'un programme que nous portons, qui s'appelle Visa pour la création. Et ça fait partie d'un programme plus vaste, qui s'appelle Afrique et Caraïbes en création, dont l'Institut français est l'opérateur. Programme qui existe depuis près de 30 ans maintenant, et qui fait partie de notre mission de porter, d'amener vers le marché, la notoriété internationale des créateurs, des artistes du continent africain. Elle est l'une d'elles, et manifestement c'est un talent émergent.
Togolaise, donc. Laurence Auer, vous êtes ambassadrice, vous êtes la directrice de la culture, enseignement, recherche au ministère des Affaires étrangères, une grande direction très importante de ce ministère. Et parmi vos activités, vous avez notamment alors je ne sais pas si on va dire la gestion, ce n'est pas exactement le mot, la tutelle, c'est un mot un peu paternaliste, il faut trouver le bon, des opérateurs français, dont l'Institut français, dont on va reparler dans un instant. Comment c'est organisé? Et peut-être, avant même de rentrer dans quelques exemples organisationnels, quelle est la philosophie, comment vous la définiriez, de notre influence, de notre soft power, dont vous êtes l'une des actrices importantes?
Alors, tout d'abord, c'est très impressionnant depuis un an de voir comme la France a repris du terrain sur cette question du soft power. Vous savez qu'en juillet de l'année dernière, on a été placé numéro 1 d'un index anglais. Alors, je ne sais pas ce qui se passera cette année, mais...
Classement du soft power de Portland.
Voilà, on est arrivé avant le Royaume-Uni, avant les États-Unis, sur un critère qui nous a fait réfléchir. Nous qui, à la demande du ministre Jean-Yves Le Drian, travaillons sur la matrice de l'influence, de la stratégie, et qui regardons les ressorts pour en définir ensuite les actions. Et nous voyons que ce qui intéresse les autres et ce qui nous différencie des autres, c'est deux choses. D'abord, dans l'influence, nous ne cherchons pas à convaincre, nous ne faisons jamais de propagande. Par exemple, France Média Monde jamais fait autre chose que de présenter un modèle de valeur, de journalisme, RFI, et dans les langues, dans le respect des cultures de l'autre. Et puis, augmente, systématiquement, presque tous les mois, on est à 150 millions de visiteurs ou de locuteurs qui s'intéressent à tout leur programme. Et puis, on est intéressé aussi parce que le modèle de soft power à la française, c'est en fait quelque chose qui est complet.
Universel, c'est le mot.
Qui est universel dans tous les pays. est complet. C'est-à-dire que si vous prenez le Goethe ou le British Council, vous voyez qu'ils vont s'intéresser aux cours de langue.
Ils font des choix assez précis. Ouais.
Mais pas à la culture. Et depuis 8 ans, on a donc en plus créé des opérateurs pour être encore plus, je dirais, agile et performant sur des
segments. Un opérateur par secteur.
Voilà.
La culture, c'est donc
L'Institut français,
le tourisme.
Atout France.
Le business.
Business France.
Et la coopération aussi.
Donc on a en plus travaillé avec l'AFD, qui a énormément de moyens et que le président de la République a demandé de réengager.
Y compris sur les industries culturelles,
et d'éducation. Et puis Campus France, pour Campus les coopérations
France pour
universitaires,
les bourses, l'université, etc. Une des critiques qu'on peut faire à ce réseau et à ces agences qui ont effectivement cette ambition universaliste, et donc du coup... Le saupoudrage, on va être partout, mais on va mettre un peu d'argent un petit peu partout, faute de pouvoir trancher, d'avoir une politique avec des grands axes.
Ouais. Alors, secteur par secteur, on connaît les lieux et les pays prescripteurs, on sait où on va. En revanche, ce qu'il faut toujours voir, c'est comment le réseau s'adapte à des nouvelles priorités. Et clairement, depuis 2013, depuis qu'un ambassadeur environ occupe 40% de son temps à l'influence et à la diplomatie économique, on voit cette orientation vers tous les outils qui nous portent vers le marché, la promotion de nos industries, nos start-up et les instituts français s'adaptent. Donc c'est plus la question du saupoudrage est périphérique par rapport à la question de est-ce qu'on est dans le cœur de cible ? Est-ce qu'on réussit à être là où il faut au bon moment ?
Combien état des lieux de votre puissance ? Alors, je ne sais pas s'il faut employer une formule, combien de divisions avec tous les sous-entendus qu'on peut mettre derrière, mais c'est combien de conseils culturels, notre réseau, combien d'instituts français ?
Alors vous citiez l'universalité, donc on a 154 services de coopération culturelle et puis on a 124 instituts français. Mais dans le fond, 98 avec toute la panoplie d'activités du livre, du cinéma et des cours de langue. Donc cette espèce de triptyque qui porte depuis plus de 100 ans chaque institut français dans le monde avec cette même, finalement, philosophie.
Alors, les instituts français, comme on le sait, c'est un label assez récent qui a été décidé notamment sous le ministre Bernard Kouchner, si je me souviens bien, qui a été testé, puis qui a été généralisé, qui a après connu des hauts et des bas. Ça regroupe les anciens instituts, les centres culturels, mais pas les alliances françaises, on y reviendra dans un instant. Pierre Buller, vous dirigez, alors... Comment pourrait-on dire, l'opérateur français qui coordonne l'ensemble de ces instituts, c'est ça ?
Oui, l'Institut français est l'opérateur de l'action culturelle extérieure sous la double tutelle du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et du ministère de la Culture. Nous sommes quelques 140 à Paris et nous assurons un ensemble de ressources à... Ce réseau, ce double réseau que vous mentionniez...
On reviendra sur les alliances françaises, mais qui a l'autorité des instituts ? Est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est les services de Laurence Auer ? Est-ce que ce sont les ambassadeurs ? Un peu tout le monde ? Personne ?
Alors, l'autorité sur les instituts, les 124 instituts dont parlait Laurence, ce sont les ambassadeurs sur le terrain et à Paris...
En accord avec vous, dans les moyens, selon les projets ?
Non, l'autorité est exercée par...
L'ambassadeur.
L'ambassadeur, et comme ancien ambassadeur, je... Faut dire que c'est un mode d'organisation particulièrement pertinent parce que je crois que l'efficacité d'un poste diplomatique est liée à l'unité d'action de l'État. Et c'est l'ambassadeur qui est le garant de cette unité d'action de l'État.
Mais comme vous le savez, le British Council, le Goethe Institute, sans doute aussi pour une part les Italiens ou les Espagnols, ou même les Portugais, les Suisses ont choisi un autre modèle où il y a un lien avec l'ambassade, mais ces instituts sont plus ou moins autonomes, en tout cas une autonomie bien plus grande que celle des instituts français.
Écoutez, si nous jugeons par la cible et par les résultats, que voyez-vous ? Laurence a très justement souligné que l'indice Portland du soft power, qui est d'ailleurs...
Oui, il y a d'autres indices. Celui-là,
non, mais enfin,
on peut prendre celui de Shanghai sur l'université.
Clairement, il n'y a pas d'autres indices du soft power.
C'est vrai.
Et celui-ci a été adoubé, si je puis dire, par l'inventeur du concept de soft power, dont votre émission porte le nom,
hein, Joseph Nye
ouais. qui a indiqué que c'est l'image, cet indice offre l'image la plus nette à ce jour du soft power mondial. Et donc, je veux dire, quelle conclusion peut-on en tirer ? D'autres ont d'autres modalités, et nous nous retrouvons en tête de ce classement. Alors, nous étions dans une position peut-être moins favorable il y a l'année dernière, enfin en 2016. Mais je crois que pour autant, le dispositif que nous avons, il a justement cette caractéristique qui est l'universalité, à la fois par toutes les disciplines, et nous marions la langue et la culture, mais aussi par l'extension de ce réseau. Si on ajoute les instituts français, les antennes des instituts français dans le monde et les quelques 800 alliances, nous avons 1000 points par lesquels nous arrivons à irradier au fond la planète.
Alors on reviendra dans un petit instant sur les alliances françaises. Juste revenons sur l'institut français lui-même, une réforme qui a été parfois complexe, un petit peu longue. Il y a eu Xavier Darcos qui était un peu comme ça un académicien qui s'en occupait. Il y avait d'autres directeurs. Il y a eu Antonin Baudry qui a dirigé l'Institut français puis qui est parti au bout de quelques semaines parce que il était un peu perdu. Il y a eu un ambassadeur, Denis Piéton, qui malheureusement est décédé. Il y a eu un autre ambassadeur qui a duré quelques semaines. Il y a eu l'ambassadeur aujourd'hui député, je crois, Le Bret, qui devait être nommé, qui l'a pas été. Bref, il y a eu un problème de quand même assez longtemps un problème de gouvernance, et y compris dans une articulation pas toujours facile avec les affaires étrangères, une tutelle qui de part et d'autre a été dite comme étant, alors les uns disaient ils font cavalier seul, les autres disaient ils sont à couteau tiré, etc. Comment ça se fait que l'Institut français est au fond une période de naissance si difficile?
Écoutez, je ne sais pas ce que vous vouliez dire en parlant de Xavier Darcos, mais moi, je connais Xavier Darcos, j'ai vu dans quelles conditions et comment il a créé l'Institut français entre 2010 et 2014, et je crois qu'il a vraiment mis cet institut sur sa rampe de lancement d'aujourd'hui, et je voudrais lui rendre un hommage tout particulier. Je crois que c'était bien plus qu'un académicien, c'était un ministre de l'éducation, c'est un organisateur, et je crois qu'il a vraiment insufflé l'esprit initial de l'Institut. Alors, effectivement, je suis le cinquième président en quatre ans, ce qui peut effectivement suggérer des difficultés de gouvernance. Alors bon, je n'ai pas d'autres commentaires à faire.
Laurent Sauer, sur cette question, on a reçu ici Xavier Darcos, il avait eu l'occasion d'expliquer ce qu'il voulait faire et on lui avait donné la parole longuement. Comment vous voyez cette articulation vous-même?
Alors d'abord, l'Institut français était un pôle à Paris de ressources, d'ores et déjà, dès la loi de 2010, pour les deux réseaux. Et c'est vrai que le fait qu'on ait un réseau d'alliances française et d'instituts français, instituts français qui sont directement gérés par le ministère, conduisait à cette orientation petit à petit de l'Institut français à Paris comme étant de plus en plus sur des sujets, moi je la vois de plus en plus sur des sujets de modernisation, par exemple d'installation de culture tech sur les bibliothèques numériques depuis Paris, c'est-à-dire de diffusion dans les deux réseaux d'une forme de préparation de projet que seul un opérateur peut faire. C'est-à-dire que le ministère garde le pilotage stratégique et la gestion budgétaire, mais on demandait à l'Institut français de prendre ses mutations et faire ses mutations. Ces mutations, elles prennent du temps. Et désormais, avec le nouveau plan langue française et plurilinguisme, je dirais la boucle est bouclée. Le président de la République a cité l'Institut français comme devant accélérer la jeune création francophone à travers des films. Il a cité tous les outils possibles, les bibliothèques numériques, mais aussi l'appui à l'apprentissage du français, les professeurs de français. Donc on voit bien
il a même annoncé de doubler, il souhaite doubler l'ensemble du français, l'apprentissage du français à l'étranger.
Exactement.
Donc une priorité très ambitieuse.
Ouais. Et donc on voit bien que finalement la structure centrale de l'Institut français à Paris doit correspondre peu ou prou à ce que fait depuis une centaine d'années les instituts historiques et les alliances. Et je reviens sur ce point, on n'est pas en train de changer la relation que nous avons avec les alliances françaises. Les alliances françaises sont toujours un réseau associatif et on en respecte. On en respecte la structure, la composante, etc.
Rappelons que les alliances françaises sont généralement créées par des associations sur le terrain, par des gens qui sont francophones, souvent pas français, et qui aux États-Unis, au Mexique, en Afrique ou ailleurs, aiment bien la France et ont décidé de créer une association. Et nous, enfin la France, leur apporte une aide, parfois nomme des professeurs, investisseurs, mais ça reste des structures de droit local indépendantes.
Absolument.
Et alors sur ce point juste, Zoé Fès peut-être.
Bah oui, justement. Alors c'est intéressant comme vous effectivement vous le dites, on est sur ce numéro 1 sur cet indice, mais c'est vrai que c'est très intéressant quand on regarde un petit peu ces questions de l'action française, l'action culturelle française à l'étranger, on tombe sur toute une foule de tribunes qui sont postées littéralement tous les 6 mois. Alors la dernière en date, elle concerne justement plusieurs directeurs d'Action française qui signaient une revue dans Le Monde, qui signaient une tribune dans Le Monde intitulée « Aujourd'hui, la survie de la Fondation Alliance française semble menacée à court terme ». Il y a eu évidemment de multiples tribunes au moment de la création de l'Institut culturel français qui montraient bien aussi comment ces acteurs sont en train de changer, notamment au moment de la création de l'Institut français, plusieurs textes d'anciens conseillers culturels qui montraient qu'il y a quand même eu des postes qui ont été supprimés, il faut le rappeler, hein, 400. Je crois, un peu plus de 400 au moment où l'Institut culturel français, l'Institut français est né, et puis avec un remplacement, c'est-à-dire que tous les gens qui venaient, notamment tous les gens qui étaient détachés à l'époque dans ces centres ou dans ces instituts culturels français, qui venaient souvent de l'enseignement supérieur, qui étaient des professeurs ou des enseignants de langue, ont été remplacés peu ou prou par des gens qui venaient tous du Quai d'Orsay. Donc il y a quand même eu un changement.
Alors, deux questions différentes. Deux questions d'abord peut-être à vous, Laurent Sauer, sur les moyens. C'est quoi finalement, sont aujourd'hui les directeurs d'instituts français, est-ce qu'ils ont des moyens? Est-ce que le métier n'est pas aussi en train de changer? Zoé Fès a évoqué au fond une sociologie, c'était avant des profs détachés, et c'est souvent aujourd'hui ou des diplomates ou un peu des chefs d'entreprise d'une certaine manière.
Alors globalement, le budget consacré à politique d'influence, c'est 715 millions d'euros, la moitié pour l'éducation, mais les écoles françaises à l'étranger. Donc là, on parle finalement du reste. Le réseau des instituts, donc le réseau qui dépend du ministère des Affaires étrangères de l'État, c'est à peu près 130 millions de subventions et c'est presque à 70% des structures qui sont autofinancées, y compris jusqu'à 80% en Europe. Et en effet, de plus en plus, le profil des directeurs d'instituts change. Le profil des directeurs d'alliance aussi. Et ne sont pas des fonctionnaires ni du Quai d'Orsay, ni de l'Éducation nationale.
De plus en plus des managers, c'est ça,
oui,
on dirait.
Oui, et surtout, la structure de l'expatriation a changé. C'est-à-dire, ce sont des Français qui ont un bagage universitaire, et par exemple au Mexique, qui tout d'un coup se trouvent intéressés à diriger une alliance. Et à la clé, nous, on appuyait les deux réseaux. Et on appuyait surtout à Paris les deux structures. Et donc, il était aberrant que l'État, pour les mêmes objets, appuie deux structures. Donc, désormais, c'est l'Institut français qui va être appuyé.
Oui, mais alors, revenons sur les alliances françaises. Bon, évidemment, c'est un peu une bagarre franco-française telle qu'elle est vue de l'étranger. Il y a des dettes très importantes. Il y a une équipe qui a été réduite de moitié. Là, je parlais des alliances françaises. On dit que l'Institut français déménagerait dans les locaux de l'Alliance française. Vous allez peut-être pouvoir nous le confirmer ou pas. Et par ailleurs, sur le terrain, quand on parle aux directeurs d'Alliance, ils ne se reconnaissent pas vraiment dans les instituts français parce que justement, ils sont autonomes, locaux et non pas français. Comment est-ce que tout ça va pouvoir marcher?
Alors, c'est pour ça que je propose de vous redistinguer qui avait une dette. C'était la Fondation Alliance française à Paris, pas les alliances. Les alliances, elles sont autofinancées,
chacune
elles fonctionnent.
Dans leur pays.
Ouais. En revanche, elles reçoivent du soutien de l'État, 36 millions d'euros. 36 millions d'euros, c'est le budget de l'Institut français, sous forme de subventions à travers les ambassades, sous forme également d'appui.
De personnel, par exemple, un directeur qui est financé par la France.
Expatrié, hein. Il y en a presque 300 aujourd'hui, etc. Et surtout, à travers la Fondation Alliance française. Donc, la crise de la Fondation Alliance française, qui a eu lieu en décembre et que nous regrettons, nous a conduit désormais à réfléchir à mutualiser cette fonction support depuis Paris, et en effet, à partir du boulevard Raspail.
Et ils vont aller, donc l'Institut français va, Pierre Buller, vous allez déménager?
Oui, c'est ce que
vous êtes en train de faire vos bagages?
Pas encore.
On dit qu'il y a deux ans de travaux devant nous.
Un déménagement, ça prend toujours beaucoup de temps.
Mais deux ans,
c'était ce qu'a annoncé le président de la République dans son discours.
Et ça vous a fait plaisir?
Du 20 mars. Ben, écoutez, nous rapprocher d'autres opérateurs, c'est...
Et puisque le président le dit, on le fait.
Une petite question justement. Est-ce qu'il n'y a pas un espèce de paradoxe à restreindre finalement, en tout cas à vouloir rapprocher la Fondation Alliance française de l'Institut français et dire en même temps, notre budget, c'est notre priorité, c'est d'en ouvrir 10 par an à partir de 2019.
Ce qu'a annoncé le président de la République.
Ce qu'a annoncé le président de la République, qui veut continuer à en ouvrir, alors avec la question des priorités qui se posent, mais c'est ce que dénonçait principalement cette tribune qui disait, bon, attendez, on nous coupe en fait finalement cette fondation, on l'affaiblit et en même temps on nous demande d'ouvrir plus d'alliances françaises.
En fait, on va pas couper les crédits. S'il y a eu une difficulté à la Fondation Alliance française, c'est un enchaînement de situations de gestion qui ont conduit à ce que, en effet, Désormais, on se pose la question de savoir comment on fait autrement pour appuyer les alliances françaises. Les alliances françaises à l'étranger n'ont jamais reçu moins d'appui depuis 2 ou 3 ans et cette année qu'auparavant. Donc, ce qui est en jeu désormais, c'est comment on appuie plus et comment on suscite l'envie de Français, parce qu'en effet, on veut avoir des objectifs extrêmement ambitieux et on veut redynamiser plutôt les structures associatives, que le jeune Français qui se trouve en Australie ou ailleurs, il ait envie d'ouvrir une alliance parce qu'il est expatrié ou l'étranger qui a fait des études en France.
France Culture, 19h37, je reçois ce soir Pierre Buller, qui dirige l'Institut français, ambassadeur chargé de l'action culturelle extérieure de la France, ainsi que Laurence Auer, directrice de la culture, enseignement, recherche et réseau au ministère des Affaires étrangères, ancienne ambassadrice. On le reste toute sa vie, ambassadeur d'ailleurs. Vous êtes ambassadrice pour toujours, non, désormais?
Moi, je n'ai que le titre modeste de directrice, mais avec cette mission assez palpitante, je dois dire.
Pierre Buller, qu'est-ce que nous écoutons en ce moment?
Alors, ça c'est la musique de La Belle et la Meute, un film d'une jeune réalisatrice tunisienne qui s'appelle Kawter Ben Ania, et l'auteur de cette musique c'est Amine Bouafa.
Amine Bouafa. Et quel rapport avec l'Institut français?
C'est un rapport que je vais vous expliquer. Dans un instant, Amine Bouafa donc a composé, et il est également le compositeur de la musique du film de Timbuktu, le film d'Abderrahmane Sissako qui a eu le César de la meilleure bande originale en 2015. Alors, pourquoi La Belle et la Meute et pourquoi Amine Bouafa? C'est que c'est un film qui fait partie du programme Cinéma du Monde. Cinéma du Monde, c'est un programme que nous conduisons ensemble avec le Centre National de la Cinématographie et qui nous permet d'amener, là aussi, vers le marché mondial des réalisateurs, des producteurs de cinématographie du Sud. Et donc, nous avons des comités de sélection qui permettent, sur base de synopsis, sur base de projets, de sélectionner les meilleurs projets. Tenez-vous bien, Frédéric, au dernier festival de Cannes, savez-vous le nombre de films issus du programme Cinéma du Monde qui étaient retenus dans les différentes sélections du festival de Cannes? Un chiffre comme ça.
Moi, je dirais une vingtaine, si on prend toutes les sélections, c'est ça?
25. Ouais. 25. Et combien ont été primés?
Allez-y.
8. Donc, 8 films primés. Et donc, nous nous sentons un peu comme un incubateur de talents.
Bien. Alors là, on est très optimiste. C'était le moment feel good de l'émission. On se sent bien.
Beaucoup d'autres, j'espère.
Et on était gentils et optimistes. Passons à une question un peu plus critique liée à ça. Parlons budget. Il y a comme un paradoxe, et c'est d'ailleurs ne vous concerne pas que l'Institut français, mais l'ensemble au fond de la diplomatie, parfois, une sorte de paradoxe entre des ambitions affichées extrêmement hautes. Je pense, on l'a dit, doubler l'enseignement du français à l'étranger, multiplier notre présence, la francophonie. On peut parler des saisons qu'on veut partout, le plan langue française, le débat d'idées. Pourquoi pas la fête de la musique qui a lieu cette semaine. Et en même temps, un budget, je pense au programme 185, du budget de l'État, au programme 209, des coupes budgétaires très significatives. On annonce plus de 30 millions d'euros pour 2019 de coupes budgétaires qui vont affecter directement la culture, l'éducation et le réseau. Vous devez rendre au département, comme on dit, au ministère, de l'argent. Et il y a aussi des problèmes de coupes à la fois de personnel, de budget et donc de subventions. Comment vous comprenez cette presque hypocrisie ou on pourrait dire double langage? D'un côté, une ambition affichée, des grands discours du président de la République, du ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, homme du hard power pour le coup, et un soft power qui est, dans la réalité des chiffres, asphyxié.
Alors, dans la réalité, nous sommes en train de préparer la mise en œuvre du plan langue française et plurilinguisme, et dans tous les secteurs. Pierre Buller parlait du domaine du cinéma, on prépare le plan sur la traduction, mais aussi sur l'éducation. On prépare une plateforme numérique qui s'appelle France Éducation pour mettre en avant des contenus numériques. On travaille beaucoup sur la base de la numérisation, non pas seulement dans l'idée qu'on va faire des économies, in fine, dans les médiathèques, en mettant des livres en ligne, mais dans l'idée que désormais, il faut en effet trouver d'autres moyens de toucher les gens. Il n'y a pas seulement des questions de lieu, pas seulement des questions de personnel expatrié. Il y a une autre manière de faire pour aboutir à plus de résultats avec plus d'ambition.
L'autofinancement, c'est une solution. Vous pensez, il y a des instituts qui s'en sortent très bien. Je pense à celui de Rome, par exemple, du Saint-Siège.
Impressionnant, le Saint-Siège, Prague, qui n'était pas dans une très bonne
situation. Qu'est-ce qui se
passe,
par exemple, si on prend le Saint-Siège, qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent à s'auto, je ne sais plus quel est le nom du directeur, Olivier Jacquot, je crois.
Exactement.
Il arrive à quoi à...
Avec 100 000 euros de budget, il a un budget total de 2 millions. Donc en gros,
il a trouvé du fundraising,
voilà.
De la collecte de fonds,
donc,
etc.
Des partenariats, des écoles pour lesquelles il travaille, des billets de cinéma, et puis des personnes qui viennent.
Mais alors,
dans la seule...
à d'autres endroits, on ferme. Je pense ce qui s'est passé. Il y a un petit scandale à Amsterdam lorsqu'on a vendu la maison des cartes. On ferme d'autres endroits. Il y a des lieux menacés. Je pense à Naples. Je pense à Florence. Il y a un débat sur Vienne, il y a des débats dans d'autres endroits.
C'est quoi évidemment,
voilà. Est-ce que c'est une réorganisation cartographique? Il y a des endroits où on diminue parce qu'il faut ouvrir en Europe centrale et orientale à l'époque, aujourd'hui en Asie ou en Amérique latine. Qu'est-ce qu'on fait?
Alors,
qu'est-ce qui se passe?
Donc on est constamment en train d'essayer de rationaliser les murs par rapport au contenu et au projet.
Donc moins de murs et plus de numérique.
On est en train de vérifier tous les ratios d'efficacité de tous les instituts. Pendant plusieurs années, on s'est dit c'est en Europe, on a beaucoup de murs. Souvenez-vous, juste après la chute du mur de Berlin, on s'est rendu compte que c'était les lieux, alors Budapest, Prague, qui étaient les enclaves de liberté. Pierre le sait bien, puisqu'il était en poste en Pologne. Et c'est des lieux qui sont emblématiques et qui ne pouvaient pas être touchés. Et pourtant, c'est des pays où l'amour de la France est permanent. En revanche, la vocation à enseigner le français dans les jeunes générations est très, très difficile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le jeune... polonais va apprendre l'anglais naturellement. Donc on a un vrai enjeu de pérennité de ces endroits et c'est aussi pour ça qu'on adapte la carte. Quand on a vendu l'Hospice Wallon, il y a 3 ans désormais, on n'avait pas le choix. Le bâtiment était immense et puis les Hollandais qui avaient envie de France n'allaient pas à l'Hospice Wallon. Donc la question se posait pas. Et à Vienne, on avait 2 centres culturels. Pour le reste, aujourd'hui, on est dans un moment très particulier de l'Europe. On a besoin de refonder l'Europe par le débat d'idées, de reconvaincre à certaines valeurs. On a aussi besoin d'avoir des lieux, par exemple, pour les start-up, les PME. Et ces lieux retrouvent une vocation. Mais on a aussi besoin...
À Prague, l'espace de coworking, par exemple, qui a été développé.
Voilà. Mais on a aussi
Pierre Buller, sur ces questions, je parlais, pour préparer cette émission, à un ancien COCA qui a été directeur de l'Institut français dans un pays, donc une personne qui travaille avec vous. Il était très critique sur les questions de budget. Il me dit, on le sait, on est à l'os. On n'a plus moyen de réduire, tellement qu'on a réduit. Depuis tellement d'années... nos moyens dans les instituts. C'est ce que vous ressentez sur le terrain?
Oui, bien sûr. Certains postes ont vu leur dotation réduite, mais je crois qu'il y a aussi une façon de rebondir et de se réinventer que d'autres ont mis en œuvre.
On a parlé, on a reçu d'ailleurs dans cette émission le responsable, l'équivalent de le Lorenz Auer allemand, qui a dit ici qu'on allait tenter d'ouvrir des instituts culturels franco-allemands, mixtes. Les uns et les autres, vous y êtes favorables, j'imagine.
Oui, on travaille depuis presque un an sur ce sujet. Alors, c'est toujours très compliqué. Ouais. Puisque vous l'avez vous-même dit, c'est le Goethe-Institut, qui est une fondation indépendante là.
Alors que nous, c'est l'ambassadeur. Et donc, voilà.
Donc, on est dans une réflexion.
Concrètement, il va se passer quoi? On n'ouvre pas quand?
10 instituts culturels intégrés franco-allemands.
À partir de quand?
Donc on doit d'abord présenter au prochain sommet cette liste qui est en cours d'élaboration. On a pris un modèle, on s'est mis d'accord sur
notamment
les
des pays comme quoi? La Turquie, par exemple?
Alors, beaucoup de pays en crise.
Oui.
On a identifié...
Aucun de nous deux ne sommes très gros, ni les Allemands,
Bagdad,
ni la France.
Voilà. Où on n'est pas en compétition directe, mais où on voit qu'il y a une vraie valeur ajoutée politique. Donc pays de sortie de crise.
Sur la présence de l'Europe?
Sur la présence franco-allemande, où ça a un sens. Donc en Afrique, par exemple, on est en train d'identifier dans 5 ou 6 pays Je vous parlais d'Irak. On a un très très fort besoin aujourd'hui de réinvestir dans un pays qui se reconstruit. Erbil, Mossoul, Bagdad.
Pierre Buller, oui. Sur ces questions, c'est une, pour vous, ça vous paraît une des façons au fond de contrecarrer les problèmes budgétaires par, il faut être imaginatif, inventif et accepter de se remettre en cause. Pourquoi pas un institut français, enfin en l'occurrence un institut culturel franco-allemand.
Oui, absolument. Il faut toujours être imaginatif et se réinventer en permanence. C'est ce que nous faisons.
On vous reconnaît bien, là, Pierre Buller.
C'est ce qu'on fait d'ailleurs à l'Institut français, qui a été obligé de le faire parce qu'il
était tout nu et il n'avait plus d'argent.
Dans les cinq dernières années, donc depuis Xavier Darcos, année après année, la dotation, la subvention pour charges de service public versée par le ministère des Affaires étrangères à l'Institut français a décru de 5% par an, moins 25% en 5 ans.
Et alors qu'elle n'était pas, déjà pas très haute.
Elle n'était déjà pas très haute. Et donc, moins 25% s'appliquant à une entité dont les charges de structure sont relativement incompressibles, vous imaginez un peu l'effet que ça a. Donc, ça nous a obligés à nous réinventer. Et je dirais que...
Et ça pèse combien tout ça? Parce que si on compare, par exemple, le budget de l'Opéra de Paris, c'est petit, finalement. Tout ce qu'on met dans la culture à l'étranger.
Cette subvention dont je vous parle, elle est, sur 2018, de 28,5 millions d'euros. Et c'est la première année qu'elle a été reconduite à l'identique, donc pas stabilisée. Et enfin, moi et toutes mes équipes ont interprété ça comme un signal politique majeur.
Mais alors, n'oubliez pas que pour 2019, on propose 30 millions et un peu plus.
La discussion n'est pas terminée,
en moins.
Cher Frédéric.
Donc qu'est-ce qu'on fait? On se met en grève donc, de la faim, Pierre Buller?
Si vous relisez le discours du président de la République, qu'il a prononcé sous la coupole de l'Académie française, il a utilisé le verbe sanctuariser les crédits de ces institutions. Et dans le plan pour la langue française et le plurilinguisme, ce plan dit expressis verbis, les moyens de la diplomatie culturelle seront maintenus.
Sanctuariser. Vous vous souvenez que François Hollande avait annoncé ça pour le ministère de la Culture. Un an après, la ministre avait dû perdre une partie de son budget.
En tout cas, les deux ministres qui vont mener la négociation budgétaire, et en particulier le ministre des Affaires étrangères, qui est notre ministère de tutelle, qui nous dote à hauteur de 28,5 millions, entreront dans cette négociation avec quand même la parole présidentielle. Et je crois qu'il y a, il faut le dire, il y a une mobilisation de tous les acteurs de cette diplomatie culturelle. Nous sommes, nous, évidemment, très engagés, mais le ministère, la direction que dirige Laurence, le ministère de la Culture, tous les autres opérateurs, vous savez, des gens qui sont fondamentalement engagés dans cette aventure. Ils mettent tout leur cœur et leur passion.
Un mot sur ça, Laurence.
Il ne faut pas les décourager.
A été cité plusieurs fois le nom du ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, grand ministre de la Défense, homme du hard power. Est-ce qu'au fond, il y connaît quelque chose au soft power?
Eh bien, le ministre qui, par exemple, revient d'Asie centrale, a visité trois pays, et il est rentré en nous exposant comme il avait rencontré, une université franco-arménienne, Azeri, un institut français à Tbilissi, une petite école, et comme dans ces endroits qui ne sont pas vraiment le cœur de cible de l'influence française ni des endroits prescripteurs, comme c'est impressionnant. Donc ce sont des
projets... Je ne suis pas
sûr
que vous m'avez convaincu, mais en tout cas, vous avez bien essayé, c'était déjà bien joué.
Oui, vous savez, on est protégé par un président de la République qui a fait plusieurs interventions, pas seulement un discours. Les universités européennes, le patrimoine, les saisons. Et on a donc un ministre de l'Europe et des Affaires étrangères qui, de par ses voyages, est constamment sollicité. Sollicité quand il va rencontrer le Premier ministre irakien ou demain le ministre de la Recherche.
Sur la culture iranien. Et donc les questions linguistiques, la francophonie et la recherche aussi, voilà. Donc notre ministre du soft power, on peut l'appeler comme ça. Alors j'ai une petite question, j'en voulais vous faire un petit cadeau, Pierre Buller et Laurent Sauer. Est-ce que vous connaissez ce morceau? Alors ils se regardent. Non, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave de ne pas le connaître, surtout quand on dirige l'Institut français. Et il s'agit du nouveau titre qui est sorti cette nuit. Alors vous voyez, vous n'avez pas eu le temps de le regarder, bien que Plus de 5 millions de personnes l'ont vu dans ces dernières heures. Donc, il s'agit du nouveau morceau de Beyoncé et Jay-Z. Et d'une certaine manière, c'est aussi ça le soft power français. Alors, vous avez peut-être pas compris pourquoi, mais on va vous expliquer avec Zoé Sfez, parce que donc la vidéo a été mise en ligne sur YouTube cette nuit. L'album est en exclusivité sur Tidal et non pas d'ailleurs sur Spotify. Débat entre les plateformes, on en a déjà parlé dans cette émission. En l'occurrence, l'album s'appelle Everything Is Love. C'est le titre de l'album où Beyoncé et Jay-Z y célèbrent ainsi leur amour. Amour d'ailleurs. Qui repart parce qu'il y a eu quelques tensions. Ce qui est intéressant et qui va vous plaire, c'est que la vidéo du morceau que l'on écoute, qui cumule pratiquement 5 millions de vues et qui en aura sans doute quelques dizaines de millions sous peu, elle a été entièrement filmée au musée du Louvre. Et c'est là où, en fait, on a du soft power. C'est un clip grandiose. Titre ce dimanche Le Figaro. Beyoncé et Jay-Z refont les peintures. Titre Libération ce dimanche. La vidéo du morceau à Péchit est en effet exceptionnelle. Zoé Sfez, filmée devant la Joconde.
Devant la Joconde, devant le sacre de Napoléon. On a...
Il y a tout. Il y a aussi la victoire de Samothrace.
Voilà,
il y a
la victoire de Samothrace,
il y a aussi la Vénus de Milo.
Le sphinx, le grand sphinx. Et donc on a soit Jay-Z et Beyoncé eux-mêmes triomphant devant la Joconde, c'est-à-dire imposant le fait qu'ils sont aujourd'hui les vraies icônes artistiques, soit des danseurs qui dansent devant ces chefs-d'œuvre magnifiquement.
Beau,
Et surtout, il y a des très beaux rappels, c'est-à-dire qu'on va avoir le sac de Napoléon, on va avoir des détails sur un Caravage, et on va avoir des mises en lumière, une mise en parallèle avec tout simplement des plans de familles ou de jeunes afro-américains qui sont dans des HLM aux États-Unis.
Alors ma question pour Pierre Buller et Laurent Savoie, vous êtes deux parce que pour répondre, vous allez voir, c'est volontairement provocateur. En 6 minutes 05, est-ce que vous ne croyez pas que Beyoncé et Jay-Z font plus pour le soft power français que toutes les actions de l'Institut français réunies ?
Écoutez, je ne suis pas sûr, car ce que nous faisons a une valeur justement universelle. On est partout dans le monde.
Jay-Z et Beyoncé aussi hein.
Vraiment, pour le coup.
Mais nous touchons des publics qui ne sont pas nécessairement ceux que visent Jay-Z et Beyoncé. Et je pense que nous avons, voyez, pour la langue française, je ne sais pas ce que fait Beyoncé
pour la langue française.
Mais nous travaillons pour justement étendre le nombre de francophiles et de francophones dans le monde. Et ça, je crois que c'est un travail de longue haleine qu'il faut mener dans la continuité, avec efficience, avec des moyens toujours renouvelés. D'ailleurs, nous parlons aussi, parce que nous nous réinventons, je vous l'ai dit, comme le Louvre d'ailleurs, qui se réinvente en offrant la Joconde comme tableau de fond à Beyoncé. Mais nous réinventons également. Et nous...
D'ailleurs, on appelle, vous savez, le mot à la mode au Quai d'Orsay, c'est le reset. Il faut tout reprendre, comme un ordinateur, repart. Reset. Ouais.
Il y a un autre, exactement, eu la même chose. C'est un week-end riche pour la France. Autre monument emblématique qui a été, on va dire, offert à un autre groupe important, c'est Netflix, puisque ce week-end était diffusé l'épisode final d'une série phare de la plateforme Netflix qui s'appelle Sense8, qui a été réalisée par la réalisatrice Lana Wachowski et qui en fait était l'une des premières séries de Netflix, l'une des plus ambitieuses, qui a été tournée dans 8 pays avec 8 personnages principaux qui sont connectés mentalement, et donc il y a eu des tournages dans les 8 pays. La France n'en faisait pas partie, mais le final de cette saison se passe essentiellement à Paris. Ça se termine par un mariage sur la Tour Eiffel. On est vraiment sur la Tour Eiffel et la mairie de Paris a offert des feux d'artifice spécialement pour cette série. Là aussi, moi, du coup, ça me pose une question. On est sur cette même question. Cette série-là, c'est la série emblématique de Netflix qui veut s'adresser à tous ses publics. Il y a des Coréens, il y a des Indiens, il y a des Africains. Sur la Chine et sur les pays d'Asie, dont on n'a pas parlé ici, vous parlez à la fois de l'Europe, où finalement, c'est plus l'objectif pour un jeune Polonais d'apprendre le français. Vous avez parlé des pays en crise, certes. On n'a pas beaucoup parlé de la Chine, qui n'arrête pas d'ouvrir quasiment toutes les secondes des centres Confucius partout dans le monde. Et nous, où on en est, la France, en Chine ?
Alors, nous, on en est, je pense, très bien. On prépare l'ouverture du centre Pompidou à Shanghai. On prépare l'ouverture d'une dizaine d'écoles privées et publiques d'enseignement
privé
français.
Donc, qui ne dépendent pas de vous.
On a 120 000 apprenants de français en Chine. Alors, évidemment, vous me direz,
pour 1,4 milliard de personnes, ça ne fait pas beaucoup en pourcentage.
Mais, oui, mais il y a une demande de langue française, pour le coup.
Qui croit.
Et qui est très,
plus
très
importante.
Plus 0,01%. Et surtout, on travaille avec eux dans le domaine de l'innovation, de la recherche. Donc tout, vous avez raison, on est aujourd'hui face à quelqu'un qui a un pays qui est absolument majeur
et qui est presque un continent, parce que c'est ça. On a combien d'instituts culturels par exemple en Chine?
Donc on a un institut, une alliance, on a beaucoup, on est une très 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 grosse structure, je dirais aujourd'hui c'est l'une des plus grosses structures à l'étranger. On a anticipé tout ceci il y a 10 ans. Moi je reviens peut-être sur Beyoncé et le Louvre. La clé de l'influence, c'est quand l'autre vous choisit. C'est-à-dire que, en fait, quand on, à travers un clip ou un tournage, un film où on a un film indien qui va se tourner chez nous, ou on a un film chinois, ils sont en train d'ouvrir, vous le savez, plus de 1000 salles d'arrêt d'essai. Là, si on a
Donc
un partenariat...
divertissement, pas tout à fait d'arrêt d'essai.
de même quand l'Arabie Saoudite décide de venir signer un accord. Donc le point important, comme le disait Pierre, c'est qu'on est dans un système totalement internationalisé. Aujourd'hui, les industries culturelles et créatives font plus, évidemment, de recettes sur le numérique et l'international qu'en France même. Et l'important, c'est quand, justement, on est choisi par eux.
Pour terminer, Pierre Buller, cette émission touche à sa fin. Peut-être un petit survol rapide des principaux projets que l'Institut français est en train de porter. On a cité les saisons culturelles africaines 2020. Il y a une saison Israël un peu compliquée d'ailleurs en France cette année, qui commence cet automne.
Qui a commencé
déjà. Une saison roumaine.
Saison roumaine à l'horizon de la fin de l'année.
La Nuit des Idées, la Fête de la Musique que vous accompagnez partout.
La Nuit des Idées, la Fête de la Musique et ce que je et puis surtout ce plan pour le français et le plurilinguisme hein, qui je crois que c'est une effectivement ça part d'un constat que le français et le plurilinguisme étaient un peu défaillants et le choix du président de la République d'allouer parce que vous nous parliez de budget mais dans ce plan vous avez une dotation à l'Agence française de développement à hauteur de 350 millions d'euros par an.
Qui est aussi de l'industrie, qui est aussi
pour soutenir les systèmes éducatifs en Afrique et notamment en Afrique francophone. Et donc, plus la dotation de 200 millions d'euros de la France au partenariat mondial pour l'éducation qui sera aussi dédié à un certain nombre de pays en développement. Donc je crois qu'il y a, c'est un chantier considérable qu'il nous faut aborder, que nous abordons d'ailleurs avec nous, avec nos partenaires, le ministère d'Éducation nationale et son opérateur clé, avec l'Organisation internationale de la francophonie. Et voilà les chantiers dont je voudrais vous parler. La Nuit des Idées, 31 janvier 2019. Je réservais déjà cette soirée.
Toute la nuit, voilà.
Thème et face au présent.
Une réaction sur Twitter de quelqu'un que vous connaissez, Didier Lebret, ancien ambassadeur. Alors, question un peu ironique, ça ne vous échappera pas. Une idée, confier la francophonie à ceux qui ont banni l'usage de notre langue chez eux. Je ne sais pas à qui s'adresse.
C'est un peu cryptique.
C'est un peu crypté, mais je sens comme une ironie entre personnes qui ont eu quelques fonctions au Quai d'Orsay. On aurait pu parler aussi de la Biennale de Venise, la foire du livre de Francfort que vous avez accompagnée cette année. Donc c'est aussi d'essayer d'être là où on peut avec les moyens qu'on a, c'est ça finalement.
Nous sommes partout où la France doit être, notamment sur les marchés prescripteurs, comme le disait à juste titre Laurence, hein, la Biennale de Venise, mais nous faisons la Biennale de Bamako. Nous étions à Francfort. Nous espérons également porter la bannière, l'étendard du design français à Milan l'an prochain.
Et puis pour la fête de la musique cette semaine, les instituts s'ouvrent partout dans le monde, j'imagine.
Voilà, avec une jeune artiste française, qui s'appelle Cléa Vincent, que nous avons envoyée en Chine, là, qui fait une tournée en ce moment en Chine avec une musique qui s'appelle Samba. Et c'est une jeune artiste que nous soutenons, dont nous soutenons la projection à l'international, qui du programme FAIR, donc du ministère de la Culture, soutient à la jeune création des musiques actuelles.
Ah ben vous m'avez donné une idée, on va l'écouter justement. Merci infiniment à vous Pierre Buller, le temps qu'on trouve Cléa Vincent dans notre discothèque numérique. Merci Pierre Buller, vous êtes président de l'Institut français, ambassadeur chargé de l'action culturelle extérieure de la France. Merci à vous aussi Laurence Sauer, directrice de la culture, de l'enseignement, de la recherche et du réseau, le réseau culturel, le réseau diplomatique culturel du ministère des Affaires étrangères. Pour aller plus loin sur la diplomatie culturelle française, l'Institut français, le soft power de la France, on vous poste toutes les références qui nous ont servi à préparer cette émission sur les réseaux sociaux, sur Twitter ou hashtag SoftPower, articles, musique, livres à retrouver sur nos pages. Et puis je vous signale dès lundi et toute la semaine à voix nue sur France Culture. Notre invité sera Jérôme Clément qui présidait il y a encore peu la Fondation Alliance Française. SoftPower, ça continue dans un instant. Invité Innovation, Olivier Benoît avec vous, Zoé Sfez. Et à 20h10, le numérique politique. On parle ce soir d'exclusion et d'inclusion numérique. Bref, les nouvelles fractures fracture numérique. Et comme promis, tout cela juste après Cléa Vincent, une artiste française que soutient l'Institut français. Le titre « Samba pour danser » sur France Culture. Le titre Samba, magnifique en cette fin de dimanche. Il est 20h passé de 2 minutes en direct en Soft Power sur France Culture.
France Culture, Soft Power, l'invité de Zoé Svez.
Bonsoir Olivier Benoît.
Bonsoir Zoé Svez.
Vous avez été séduit vous aussi par cette petite samba à 20h02 sur France Culture. Vous êtes le représentant en Europe, vous êtes le patron finalement de l'App Association ACT. Vous allez nous raconter exactement ce que c'est, qui en fait représentait aux États-Unis, mais encore donc du coup aujourd'hui en Europe aussi, des développeurs d'applications, c'est ça ?
Voilà, parce que le marché des développeurs d'applications est un marché mondial. On peut réussir son application de n'importe où grâce justement à de l'innovation et grâce justement aux facilités qui sont offertes par certaines plateformes qui permettent d'avoir de la visibilité, d'être référencé.
Alors justement, vous êtes l'auteur d'un livre blanc sur les rapports entre les développeurs d'applications et ces plateformes, alors que en ce moment, en Europe, se préparent des textes pour justement essayer un petit peu de comprendre et parfois de limiter ce qui se passe au niveau de ces plateformes. On a une commission européenne qui a en ce moment envie de sanctionner Android, la plateforme sur laquelle la plateforme donc qui n'est pas celle de Apple. Si vous avez en gros un Samsung ou n'importe quel autre téléphone qui n'est pas un Apple, en général votre App Store, eh bien c'est l'App Android. Et on a une commission européenne qui envisage de prendre des sanctions, en tout cas de légiférer sur cette question d'Android, en estimant notamment eh bien qu'il y a un problème de concurrence. On est sur un droit de concurrence. Vous, paradoxalement, vous qui développez les développeurs d'applications, vous rendez un livre blanc qui est plutôt, disons, beaucoup plus calme sur cette question et qui, pas défend les plateformes, mais qui en tout cas défend une situation qui, pour vous, marche plutôt bien avec les plateformes. Est-ce que vous pouvez me rappeler de quoi on parle quand on parle de plateforme ?
Eh bien, justement, on ne parle pas d'une seule plateforme, donc qui renvoie à la définition d'un organe, mais on parle d'un outil qui est à disposition d'une activité économique. Et nous avons un marché qui est celui des logiciels applicatifs, donc les applications qui maintenant sont distribuées sur tout type de support, pour les tablettes, les smartphones, bientôt les voitures connectées. Et donc, on est dans une logique de marché. Donc, une plateforme, il n'y a pas une seule plateforme, mais il y a des plateformes qui correspondent à des marchés différents. Donc, pour nous, la notion d'outil est importante. Et dans notre situation, dans notre cas, la plateforme, les plateformes qui nous sont proposées par les principaux opérateurs, vous avez cité Apple, mais il y a également Google, il y en a d'autres, enfin, je cite les principales, eh bien, permettent un marché vertueux. Qu'on appelle un marché biface.
Alors justement, on pourrait se poser la question, parce qu'on a vu que ce marché des applications, il a explosé, d'abord aux États-Unis, ensuite en Europe. Est-ce que vous pouvez me donner peut-être le nom de quelqu'un, avec toujours cette image d'Épinal, du petit hacker qui bidouille un truc dans son garage, et puis finalement ça marche. Est-ce que c'est ça ?
Oui, il y a ce qu'on appelle...
C'est pas toujours ça quand même, hein ?
Non, mais en fait, on s'aperçoit évidemment que tout le monde n'est pas un développeur d'application né dans le sang. Bon, il y a un côté un peu darwinien qui est celui du marché. Donc la réussite, effectivement, est décuplée. Et donc, lorsque le produit ne prend pas, malheureusement, il y a un arbitrage économique qui est fait.
Qu'est-ce qui s'est passé par exemple en France? Qui a réussi à s'imposer? Parce que c'est toute la question. On se dit, est-ce que finalement ces développeurs d'applications français, européens, qu'ils soient petits, qu'ils soient gros, ils ont une chance de s'imposer face à d'autres sur des plateformes qui effectivement sont quand même aujourd'hui très centralisées?
Alors on a des très beaux exemples. On a Babel qui permet d'apprendre les langues très rapidement. On a Deezer donc qui permet de pouvoir avoir accès à de la musique. On a aussi un secteur très créatif en France puisque les jeux vidéo par exemple sont mondialement téléchargés avec donc Gameloft et Ubisoft qui sont quand même des opérateurs assez importants, et donc Voodoo, on a aussi Ketchup qui est détenu aussi par Gameloft. Mm-hmm. Ubisoft pardon. Donc c'est quand même on a cette belle réussite, ce potentiel de croissance, et entre le moment où vous aviez les apps qui étaient référencées ou mises en vente dans les magasins, et donc cette gestion téléchargeable n'importe où dans le monde des applications, on est quand même sur donc un démultiplicateur de croissance assez fort.
Alors justement, on a quand même l'impression que finalement ces applications, on en a eu beaucoup, il y a eu une fringale d'applications, on a tous eu 25 applications sur nos téléphones, puis finalement ces téléphones ont de moins en moins de mémoire d'ailleurs, c'est pas complètement anodin, et que selon plusieurs études, et on en a souvent parlé ici dans Soft Power, probablement les Français en tout cas ont moins d'applications en 2018 qu'ils en avaient en 2016 sur leur téléphone. Est-ce que ça veut dire que c'est un peu la fin? On a l'impression que de plus en plus de services que proposaient certaines applications vont passer par des acteurs comme Messenger par exemple, que ce sera par Messenger de Facebook qu'on pourra payer, téléphoner, apprendre des choses. Est-ce que c'est une sensation qui correspond à ce que vous observez-vous dans la réalité?
Alors moi j'aurais un raisonnement de mise en perspective. Je pense qu'il y a des vagues. Il y a une première vague effectivement qui a été générée par les plateformes et un boom des applications qui est arrivé à maturité. Et donc maintenant on va assister à une deuxième vague qui sera probablement plus forte encore, qui est la vague de l'Internet des objets, et qui permettra justement aux applications de communiquer avec des objets, thermostats, chaudières, lorsqu'on est à distance, n'importe où dans le monde, pour retrouver sa maison bien au chaud. Donc ça, avec également les problématiques de vieillissement de la population, ça sera aussi quelque chose de très utile. Donc on est plus dans un défi d'une réponse aux attentes du consommateur qu'à effectivement des produits qui sont systématiquement promus, sponsorisés. C'est à mon avis la clé du paradigme.
Alors la chose très intéressante dans ce que vous nous dites, c'est qu'évidemment dès qu'on pense à toutes ces questions des objets connectés, on sait que l'enjeu, le nerf de la guerre, c'est la donnée. Or on sait aujourd'hui, et certains penseurs en tout cas de l'économie numérique, comme par exemple Yevgeny Morozov, nous disent de toute façon, si on n'a pas la maîtrise de la donnée, on peut rien faire. On peut pas innover si on n'a pas de maîtrise de la donnée. Finalement les données, c'est quand même ces grosses plateformes et ces gros groupes qui souvent les ont. Donc est-ce que, en se faisant l'avocat du diable, est-ce que c'est pas bien finalement que l'Union européenne essaye un petit peu de tacler un peu ces grosses plateformes que sont Android ou Apple, et essaye en tout cas d'agir contre cette forme de prédominance absolue, de concentration qui est celle de ces plateformes?
Alors encore une fois, ce dont il est question, c'est la logique de marché. Donc réglementer l'activité, mais non pas l'organe. Et donc par rapport à notre marché, donc les plateformes, par rapport à la donnée, ont aussi un rôle positif, celui de tiers de confiance, celui également de pouvoir opérer et sécuriser toutes les transactions financières, et celui également de protéger par rapport à la violation de la propriété intellectuelle. Donc évidemment, c'est un couteau, on va dire, à double tranchant.
C'est-à-dire que vous avez besoin des plateformes pour avoir tout ça?
Les plateformes ont clairement, on a un lien consubstantiel avec les plateformes, on n'existerait pas sans les plateformes, et de manière assez orgueilleuse, on peut dire que les plateformes n'existeraient pas sans nous, parce que nous sommes fournisseurs de contenu.
Et donc, est-ce qu'au bout d'un moment, elles n'auront pas juste à prendre les meilleures idées, et finalement à les mettre en œuvre toutes seules?
Je pense pas, parce que je crois beaucoup à l'inventivité des petites structures. Les petites structures, les start-up, donc excusez-moi, on est chez France Culture, des anglicismes.
Les jeunes poussent, mais ça
les
va.
Les jeunes poussent.
Les start-up,
permettent vraiment d'avoir, grâce à des équipes qui peuvent être très brillantes, de mise en place de projets qui sont très très rapides. Et ça, dans une grosse plateforme, une grosse structure, on est dans des paquebots qui ont des effets de bord qui sont beaucoup plus lent. Et donc, malheureusement, ou heureusement pour nous d'ailleurs, il y a ce rattrapage d'inventivité dans notre écosystème.
Et justement, la donnée, parce qu'on sait que la donnée, le big data, on ne cesse d'en parler ici, c'est un peu le nerf de la guerre. C'est aussi évidemment la question du contrôle de la donnée qui se pose quand on parle de ces plateformes et de la manière dont on veut ou pas les réguler. Est-ce que ces app développeurs, ils ont conscience? Est-ce qu'ils essayent de garder des données propres? Et est-ce qu'ils essayent aussi de les sécuriser? Parce qu'on est dans un contexte européen de plus en plus réglementaire. C'est pour le mieux, même si ça tend beaucoup les rapports avec ces plateformes.
Alors il y a un effort effectivement de sensibilisation aux bonnes pratiques qui a été opéré. Donc nous par exemple, on a développé un code de bonne pratique sur le règlement général de la protection des données, comment l'appliquer de la situation des développeurs d'applications, d'où l'importance du rôle justement des organisations professionnelles comme les nôtres pour pouvoir justement interagir avec les grosses plateformes et également les petits développeurs d'applications qui font partie de nos membres.
Olivier Benoît, vous êtes donc en charge de l'Europe chez The App Association. Là, c'était votre livre blanc. On mettra évidemment le lien et on suivra évidemment les décisions de la Commission européenne face à Android, notamment, et pas que.
Un grand merci.
Le temps de vous dire que demain matin, dans les matins de France Culture, Guillaume Erner recevra la sociologue Dominique Méda sur le modèle social d'Emmanuel Macron.
Soft power, le numérique et politique. Le débat. Frédéric Martel.
Le débat à 20h, passé de 12 minutes sur France Culture en direct, le débat, le numérique et politique. Le débat de ce soir est consacré aux nouvelles formes de la fracture numérique et donc de l'inclusion numérique et de ce qu'on appelle aussi, pour y remédier, l'alphabétisation numérique, par exemple. Et on en débat avec Gaël Duval, entrepreneur et fondateur de jechange.fr, proche de La République En Marche. Bonsoir.
Bonjour,
monsieur.
Bonsoir.
Vous avez été renommé d'ailleurs au Conseil national du numérique.
Tout à fait.
Vous êtes le seul survivant. Hein.
Non, on est 3 survivants de la précédente.
Après l'hécatombe, vous voulez dire.
Non, mais il y avait eu une situation particulière, on était tous assez solidaires.
On ne va pas en faire le débat. Romain Piginel, cofondateur de Futur.io et ancien conseiller numérique, communication numérique, pardon, à l'Élysée.
Bonsoir.
Alors, on s'est déjà intéressé dans cette émission à la fracture numérique, notamment sous l'angle des problématiques d'accès, très géographiques, d'accès au réseau, de zones blanches, etc., notamment sur les territoires éloignés des métropoles, notamment encore par rapport à l'accès à la 4G ou à la fibre optique. Aujourd'hui et ce soir, on va s'intéresser aux nouvelles formes de fractures numériques. Ça ne veut pas dire que les anciennes n'existent plus, mais ça veut dire qu'il y a aussi d'autres types de fractures numériques, notamment le développement du numérique a fait naître de nombreuses promesses d'inclusion. Mais qu'en est-il réellement pour les personnes âgées, pour les handicapés, pour d'autres populations, parfois un peu éloignées de la chose numérique? On commence peut-être avec vous, Gaël Duval, qui aimait bien cette question, ce sujet. Comment est-ce qu'au fond le numérique se situe? Quelle est sa place dans l'inclusion sociale?
Il y a un énorme sujet, c'est que moi, à travers Je Change, on est installé à Agen dans le Lot-et-Garonne, donc on est un peu au cœur de ce challenge-là aujourd'hui. Mais l'inclusion digitale, elle a une énorme, le digital est une énorme chance pour l'inclusion parce qu'il est en mesure de résoudre énormément de problèmes, que ça soit sur la formation, que ça soit sur l'accès à l'information, que ça soit sur l'ensemble des problématiques liées au développement scolaire ou même à l'accès à la culture. Donc il y a énormément de chantiers à mener pour faire en sorte que une fois qu'on a résolu le problème des infrastructures, qui est un des sujets, et bientôt il y aura encore le démarrage de lutte contre les zones blanches
qui a été annoncé
récemment. Donc ça c'est une des premières étapes, mais les étapes suivantes, il est à la fois l'accès et il est à la fois les formations. Et la formation est un enjeu phénoménal parce que c'est le seul moyen aujourd'hui de faire en sorte que les régions soient pas à la traîne sur tout ce qui est entre développement des technologies digitales et des métiers du digital, et de faire en sorte qu'on puisse répondre à des besoins. Il y a plus de 80 000 emplois aujourd'hui qui sont en recherche selon une dernière étude qui avait été annoncée Web Today récemment.
Ça veut dire quoi en recherche? C'est-à-dire
qu'aujourd'hui on manque de 80 000 personnes pour pouvoir travailler dans des métiers et du web marketing ou du digital en termes de développement, des codeurs et autres. Donc il y a et dans les régions, je parle. Donc les territoires et les régions sont vraiment au cœur d'un challenge pour à la fois accompagner l'ensemble de tout ce qui se développe, mais aussi être capable de répondre aux problèmes de formation et d'emploi
Romain Pigenel, sur ce diagnostic, j'imagine que vous partagez l'objectif, mais sur le diagnostic.
Oui, bien sûr. Je crois qu'il y a plusieurs choses. Il y a déjà effectivement, que le disait très bien Gaël Duval, la puissance du numérique pour repenser la formation et puis pour arriver à apporter à des publics en difficulté des chances de se relancer, d'apprendre des métiers qui sont en tension. Et on le voit tous les jours. Moi, je travaille beaucoup avec ma société sur la blockchain. On doit former tout le temps des gens parce qu'on n'a pas aujourd'hui les talents qu'il faut. Puis après, il y a aussi l'autre facette, mais qui n'est pas totalement déconnectée, c'est les formes de nouvelles fractures ou de prise de distance que peut générer le numérique. Et ça, on a pas mal de données qui existent, hein, que ce soit côté des études Emmaüs Connect, l'Agence française digitale, où on voit qu'il y a une proportion de la population, alors il y a différents chiffres, hein, mais en gros, sur peut-être 10 à 13% de gens qui se disent en difficulté avec le numérique. Alors, il y a des problématiques physiques d'accès au digital, ça en a déjà parlé, mais il y a aussi des gens qui ne savent pas faire, ne sont pas à l'aise. Et ce qui est un peu inquiétant, c'est que quand on regarde, ça redouble souvent d'autres formes d'exclusion. C'est-à-dire que les publics qui sont touchés vont être des travailleurs, justement, qui sont durablement éloignés de l'emploi, ça va être des familles pauvres, ça va être des vieilles personnes en difficulté.
Donc on voit qu'il y a des migrants, évidemment,
bien sûr,
personnes étrangères.
Et donc on voit effectivement qu'il y a un risque qui est d'avoir un peu une espèce de façon de la Startup Nation, où il y aurait effectivement une élite qui accélérerait, qui irait toujours plus vite, et puis de l'autre côté, des gens qui décrocheraient petit à petit, avec un effet parallèle que moi j'ai vu quand j'étais en fonction, qui est que de plus en plus l'administration se digitalise, par exemple, et c'est très bien, de plus en plus l'accès aux services se digitalise, et ça peut être effectivement à un moment un problème pour des personnes qui sont déjà éloignées du service public, déjà éloignées de l'accès justement à ce que peuvent avoir les autres Français, et qui en plus auraient un obstacle numérique digital qui se surajouterait. Donc évidemment, le digital, super outil pour inclure, pour créer des nouvelles formations, créer de nouveaux métiers, mais c'est aussi faire attention justement aux personnes qui n'ont pas forcément vocation à travailler dans le digital. Comment est-ce qu'on leur permet justement de rester accrochés au train et de pas être semés par une accélération
du wagon devant. Et d'un point de vue politique, il y a aussi un sujet qui est quand même assez challenging et important à relever, ouais. C'est que si on regarde, il y a quand même un risque de ce qu'on pourrait appeler le e-populisme, c'est-à-dire un populisme basé sur tous les méfaits du digital, qui en réalité sont pas des méfaits, puisqu'on a longtemps parlé du digital qui tuait des emplois, alors qu'aujourd'hui on voit bien et on démontre que ça
change les emplois, ouais.
Et qui change les emplois, mais même qui en crée des nouveaux, c'est-à-dire qui favorise le fait qu'aujourd'hui
il en tue aussi chez les chauffeurs de taxi, chez les...
Non, justement, il en tue évidemment, mais il en fait muter plus qu'il n'en tue, et il en crée plus qu'il n'en tue dans tous les cas. Donc on est justement dans le digital, dans une situation où le digital est créateur de valeur d'emploi et non pas destructeur d'emploi.
Pour tous les deux, est-ce qu'un des risques, c'est pas ce que certains ont appelé le solutionnisme d'une certaine manière, c'est de dire grâce à Internet, on va trouver des solutions pour tout, alors qu'en réalité, très souvent, on s'aperçoit que l'exclusion, c'est quand même des processus très complexes, l'accès aux données, aux informations sociales pour des migrants, pour des personnes retraitées, etc., ça reste difficile, et que trop croire parfois dans le numérique, c'est pas un peu prendre ses désirs pour des réalités.
Il y a effectivement ce risque-là, et enfin moi j'ai jamais vu ou entendu vraiment des gens qui pensaient que le digital allait tout révolutionner, tout résoudre.
Non, mais partout on dit on va créer une app, on va créer un site.
Oui, non, mais ce qui est vrai en revanche.
Et dans les ministères parfois qui ont du mal à évoluer, on crée des apps et c'est en fait des usines à gaz souvent qu'on crée.
C'est pas faux, mais ce qui est vrai en tout cas, c'est que la solution est moins chère à trouver qu'avant. Le digital permet aussi ça, c'est que l'accès à la manière de le faire et le fait aujourd'hui que n'importe qui peut trouver la solution, alors qu'auparavant il y avait une sorte de responsabilisation de l'État pour faire en sorte que ça vienne de l'État et que toutes les solutions viennent de l'État. Aujourd'hui on se rend compte qu'avec justement le numérique, des solutions peuvent arriver à tout le monde. Il y a dans le domaine des migrants des solutions qui ont été trouvées par des toutes petites start-up qui ont monté des applications pour aider à comprendre.
Et sur ce point, vous êtes d'accord, Romain Pigenel?
Oui, tout à fait. Moi, je crois qu'il faut bien distinguer les actes, les initiatives personnelles et puis les discours politiques, justement. C'est-à-dire que c'est bien et c'est nécessaire que des acteurs privés, associatifs, tentent de trouver des solutions et les produisent. Après, là où il y a un solutionnisme parfois qui est dangereux, c'est plutôt dans les discours, je dirais, superstructurels qui sont tenus justement par les personnes qui parlent, donc parfois les médias, mais aussi les politiques. Et moi, c'est ce que je disais en préparant l'émission pour faire un peu de provocation, il y a aussi un risque d'exclusion numérique parfois chez les politiques, moi je l'ai vécu de l'intérieur, à savoir que aujourd'hui on n'est plus dans la situation qui était peut-être celle encore il y a 5 ou 10 ans, où il y avait des personnes qui étaient totalement, qui n'avaient aucun intérêt ou aucune, je dirais, connaissance sur le digital. C'est fini, d'ailleurs on le voit aujourd'hui, plus personne, aucun responsable politique digne de ce nom n'oserait dire ou essayer de se faire élire en disant ça sert à rien, c'est dangereux, etc. À part le hippopulisme, on parle de Gaël Duval, mais c'est encore un autre sujet. En revanche, moi en tout cas, mon sentiment et mon expérience personnelle, c'est que il y a deux sujets, c'est-à-dire que souvent il y a beaucoup de responsables politiques de premier niveau, qui pour des raisons d'âge ou de formation n'ont pas une pratique et une connaissance concrète de ce qu'est le digital, et pas qu'une question d'âge, parce que moi j'ai pu voir des collègues.
Oui, ils laissent faire ça à leur community manager.
Et alors, premier risque effectivement, et moi j'ai vu des collègues à l'Élysée plus jeunes que moi, donc des gens qui étaient techniquement digital natives, qui étaient passés par les meilleures filières de la République et qui n'avaient même pas une connaissance, de base des réseaux sociaux, des usages, et c'est un problème parce qu'on peut pas être si éloigné, je dirais, de ce qui est la vie commune des concitoyens et avoir une vision claire des sujets. Et après, il y a l'autre risque que vous citiez à l'instant, c'est-à-dire la vision purement instrumentale de communication, c'est-à-dire je vais sur Twitter, je fais du digital. Et là où on a un vrai manque et un vrai besoin, c'est ce qu'on appelle un peu les humanités digitales, c'est à mon avis une classe politique et dirigeante qui est d'une vision claire du digital, c'est-à-dire qui voit les limites, qui voit les promesses, et qui soit capable d'avoir un discours critique, de comprendre quels sont des positionnements stratégiques à long terme, et qui n'y voit ni, je dirais, quelque chose qui soit une solution à tout, ni non plus, comme le disait Gaël Duval, une espèce de discours technophobe en disant au secours, il faut taxer les robots, etc.
Zoé Sfez.
Oui, la question des compétences, vous avez raison de le soulever, elle est aussi au niveau des décideurs. Alors on parle évidemment d'enseignement numérique, des risques numériques, etc. Est-ce qu'on a aujourd'hui des gens qui ont une vraie connaissance, ne serait-ce que de l'économie? On parle de code, c'est très bien de parler de code à l'école, mais de cette industrie, de comment elle est née, de questions économiques tout à fait sommaires et dont on a l'impression que certains politiques ne les maîtrisent pas non plus.
Mais moi je vais vous répondre une chose très simple, c'est regarder les épreuves au concours d'entrée de l'ENA et vous aurez la réponse.
Il n'y en a pas,
À ma connaissance, non, en tout cas. Et moi, je pense aujourd'hui, alors sans tomber non plus justement dans l'excès inverse et dire qu'il faut être bon là-dedans et que c'est le seul truc qui compte, si vous voulez changer rapidement les choses, en France, dans la manière dont les choses changent, changez le concours de l'ENA, changez le recrutement sur ces filières-là et faites en sorte qu'aucune personne ne peut devenir haut fonctionnaire sans avoir un check, je dirais, de ses connaissances. Encore une fois, pas juste de code ou de connaissances superficielles digitales, mais des humanités numériques, de stratégie, d'économie, comme vous le disiez.
Point important, la question des handicapés sur les publics handicapés. On a longtemps parlé des promesses du numérique, en particulier pour les sourds et muets, pour une part aussi pour les aveugles. Or, dans un article du magazine Socialterre de ce mois-ci, on apprend que le numérique n'a été que désillusion pour certains d'entre eux. Le député suppléant Mathieu Hanereau, lui-même aveugle, c'est un député suppléant La République En Marche, explique dans ce numéro de Socialterre que le numérique aurait dû nous permettre, dit-il, d'accéder à un panel d'informations, de démarches. Or, c'est l'inverse. On est dans une exclusion numérique plutôt qu'une inclusion.
Je crois un passage, c'est-à-dire tout ce qu'il dit est vrai, mais je pense qu'aujourd'hui les technologies qui sont en train d'apparaître vont accélérer l'inclusion de
les commandes vocales notamment.
Exactement, le fait qu'on soit en train de passer d'un web qui était extrêmement écrit, extrêmement tapé, à un digital qui est extrêmement vocal.
Extrêmement visuel aussi, on ne parle pas du rôle déterminant de la vidéo.
Et visuel, et effectivement, mais aujourd'hui de plus en plus on commence à avoir une relation homme-machine qui est en train de se transférer en voix-tout-voix.
Donc tout ce qui est intelligence artificielle pourrait
c'est évidemment lié à l'intelligence artificielle, mais même à l'usage. Tout le monde prédit à un horizon inconnu, mais le fait que le device va disparaître parce qu'on va se retrouver dans un usage des services où il va y avoir effectivement les sujets de vidéos qui vont continuer à être regardés sur des tablettes et de jeux vidéo et autres, mais tout l'usage de l'internet,
vous aurez avalé la puce.
Quand vous demanderez un taxi ou quand vous demanderez un service de proximité, vous aurez pas une app, mais vous aurez juste la voix qui va le faire, parce que vous commanderez à travers la voix.
Dans ce même entretien de Socialterre, Mathieu Hanereau dit aussi, et là c'est une question franco-américaine, en France on met le produit sur le marché et c'est à nous, dit-il, nous handicapés, nous aveugles, de le rendre ensuite accessible. La démarche anglo-saxonne c'est l'inverse, vous achetez un iPhone, vous mettez le voice-over et il devient accessible sans rien télécharger. Une réaction sur ça, Romain Pigenel?
À part le déplorer peut-être. Non, mais plus sérieusement.
Non, mais le côté français au fond où parfois on pense après aux usages, alors qu'aux États-Unis on commence parfois par les usages. Enfin, en tout cas, c'est ce que dit le député.
On sait que la grande force des GAFA, pour ne pas les nommer, c'est que ils ont une logique de supprimer tout ce qui est la friction, de supprimer justement tout ce qui est pénible. C'est ce que disait juste à l'instant Gaël Duval. On voit bien que c'est la ligne technologique qui est suivie, c'est-à-dire de enlever de plus en plus tout ce qui est compliqué, tout ce qui fait obstacle entre la décision ou l'envie et l'action. Donc, je crois que c'est effectivement effectivement au cœur, pour des raisons purement, je dirais, pragmatiques, de la réussite des entreprises américaines. Après, moi, ce qui me semble sur ce sujet-là, et en écoutant aussi ce qu'on disait à l'instant, c'est qu'il y a une vraie voie, à mon avis, à tracer sur la France pour être la nation du numérique inclusif et pas juste d'un côté, je dirais, réparateur social pour soigner. Non, c'est parce que je pense qu'il y a à la fois, on est un pays où on a une conscience de ces problèmes-là, peut-être insuffisante, mais on l'a. On est un pays aussi où on dépense beaucoup sur le modèle social. Et il y a, à mon avis, il y a quelque chose à jouer là-dessus pour être, alors peut-être pas uniquement la Startup Nation, mais la Tech for Good Nation, ou avoir justement une vision stratégique globale où on arriverait à créer justement un numérique qui soit inclusif pour pas avoir après coup justement à devoir galoper derrière l'inclusion numérique.
Gaël Duval, à l'instant, Romain Pigenel évoquait justement le rôle des GAFA. Que pensez-vous et que peut-on penser, que doit-on penser des offres d'entreprises comme Google et Facebook sur ces sujets? Google vient d'ouvrir à Rennes son premier atelier du numérique. Un député a annoncé que sa démarche va dans le sens de celle du gouvernement d'Emmanuel Macron de former le plus de gens possible au numérique. Est-ce que ce retour vers l'inclusion et pour supprimer l'exclusion peut être fait par des entreprises comme les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon?
Tout ce qui peut être fait pour former les gens au digital est une bonne chose, ça c'est sûr. Après, il faut juste faire attention à un sujet, c'est que si Google forme au digital pour être vraiment totalement indépendant et autre, c'est bien. Si c'est pour former au digital, pour dépenser plus d'argent en achetant des mots-clés et en se voyant sur des moteurs de recherche, c'est pas la même démarche. Donc c'est là aussi où il faut être vigilant sur ce que font les GAFA. Et surtout, c'est pas que les GAFA qui vont remporter et travailler le sujet de la formation et se déléguer à ces compagnies-là l'ensemble de la responsabilité de la formation.
Ils sont jugés partis quand même.
Et surtout, moi, ce qui me choque beaucoup là-dedans, évidemment, c'est pas qu'ils le fassent, c'est leur droit, c'est le poids auquel on donne les politiques. Et moi, ce que j'appelle, c'est le syndrome de la poignée de main de Zuckerberg.
Ils s'en réjouissent quand même.
Redites-nous le nom de ce syndrome.
C'est le syndrome de la poignée de main de Zuckerberg, c'est-à-dire que pour être cool et connecté, on va se montrer avec le patron de Google ou de Facebook et autres, alors même parfois qu'il va juste annoncer qu'il crée 4 postes en France dans un laboratoire ou qu'il va former 50 personnes au numérique. Quand des entreprises françaises font pareil et on n'en parle pas, et avec tous les problèmes que disait Gaël Duval. Et moi, je soulève juste un autre sujet. On a quand même en France quelque chose qui s'appelle l'université, dont une des missions est la formation continue. Et on peut se demander pourquoi on n'essaye pas, justement, plutôt que laisser ces acteurs-là être dans un rapport à la fiscalité un peu, on va dire, compliqué, pour pas dire autre chose. On n'essaie pas de redonner un peu de moyens.
Pour être généreux. Ils visent plus les PME que l'université, enfin, en faisant ça.
Honnêtement, je pense qu'il y aurait plein de gens à l'université, si on recrée des postes, qui pourraient aller faire cette formation au numérique, qui sauraient faire, etc. Et voilà, pourquoi aller se prosterner
aujourd'hui, dans les entretiens, vous cherchez une formation sur le numérique, pas uniquement sur les réseaux sociaux et de community manager, mais un petit peu dans le dur. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de mal, je vous invite tous à le faire, à en trouver dans les organismes de formation qui sont les plus faciles à trouver et les mieux répartis sur le territoire.
Bien, nous en restons là pour ce soir. On reviendra sur ces questions dans les semaines à venir. Dimanche prochain, dans Soft Power, on parlera de tout ce qui est autour de la nourriture, du food, du fooding, de la slow food et de tout ce qui est à la fois se mange à table, mais aussi en ligne, puisque tout ça explose et se diversifie sur les réseaux sociaux. Merci en tout cas Gaël Duval, entrepreneur fondateur de jechange.fr, et Romain Pigenel, cofondateur de futur.io, tous les deux aussi un peu engagés politiquement. C'est pour ça que c'est un débat politique, où vous l'avez été. Merci d'avoir été avec nous ce soir.
Merci.
Dans un instant, vous retrouvez Carbone 14, le magazine d'archéologie de Vincent Charpentier. Merci à vous, Zoé Sfès, d'avoir été avec nous toute cette émission, comme chaque dimanche.
Merci à vous, Frédéric.
Bonne soirée à l'écoute de notre chaîne.